Olivier Sherman.
La guerre au Moyen-Orient, une guerre d'usure et le stock d'armement qui diminue rapidement. Les munitions s'envolent, plus de 10 000 tirs américains en un mois. Le Pentagone pourrait puiser dans les livraisons à l'Ukraine. Objectif, reconstituer ses réserves et celles de ses alliés. Contourner le détroit d'Ormuz pour sauver le commerce. CMA-CGM improvise des routes terrestres en urgence. Camions et trains prennent le relais des navires du sud du détroit jusqu'aux grandes villes du Golfe. Des solutions limitées mais vitales pour la région. Une enquête RFI plongée dans une opération d'influence russe au Tchad. Les coulisses dévoilées, une fuite massive de documents analysés par un consortium. Le but était d'éloigner N'Djamena de l'Occident. Désinformation, campagne ciblée contre l'opposition. Enfin, la pédocriminalité dans l'église portugaise. Un premier geste sous pression. 3 ans après un rapport accablant, les évêques indemnisent 57 victimes pour plus d'1,5 million d'euros, mais des montants jugés insuffisants par les associations. La guerre au Moyen-Orient. L'Iran appelle les civils à quitter les zones proches des forces américaines dans la région. Les gardiens de la révolution accusent Washington d'utiliser les populations comme bouclier humain et mettent en garde contre de nouvelles frappes. L'Iran a ciblé avec des missiles et des drones des cibles militaires et énergétiques en Israël et dans les pays du Golfe, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Koweït et à Bahreïn. Le principal port commercial de Koweït a été visé par une attaque de drones. L'attaque a fait des dégâts matériels mais pas de victimes. L'armée israélienne, elle, mène de son côté des frappes d'ampleur à Téhéran. Elle vise des infrastructures du régime iranien au cœur de la capitale, c'est ce que décrit l'armée, sans plus de détails. Elle annonce avoir aussi frappé diverses cibles dans l'ouest du pays. Les États-Unis, eux, envisagent d'envoyer au moins 10 000 soldats de combat supplémentaires au Moyen-Orient dans les prochains jours. Cette force, qui comprendrait probablement de l'infanterie et des véhicules blindés, viendrait s'ajouter aux quelques 5 000 Marines et aux milliers de parachutistes de la 82e division aéroportée déjà déployée dans la région. On le sait, ce conflit consomme une quantité colossale de munitions et d'équipements. Plus de 10 000 projectiles auraient été tirés par les États-Unis et leurs alliés en l'espace d'un mois. Et l'industrie de la défense n'a pas les capacités de suivre ce rythme, à tel point que le Pentagone réfléchirait, d'après le Washington Post, à saisir une partie du matériel militaire destiné à l'Ukraine afin de compenser la diminution de la quantité de ses stocks. À Washington, précision de Vincent Souriau.
En Ukraine, ce sont des drones ou des projectiles russes. Dans le Golfe Persique, ce sont des missiles iraniens, mais la problématique est la même. Pour les détruire en vol, il faut des intercepteurs. Or, c'est une denrée qui se fait de plus en plus rare. D'après le Washington Post, si l'administration Trump réfléchit à se servir dans les stocks réservés à l'Ukraine, c'est à la fois pour reconstituer ses réserves, mais aussi celles d'Israël et des pays du Golfe. Le problème, c'est que depuis l'an dernier, ces stocks sont payés en majorité par les Européens. Des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas achètent des armes américaines par l'intermédiaire de l'OTAN et les mettent à disposition de l'armée ukrainienne. Les États-Unis peuvent-ils détourner ce mécanisme ? À ce stade, l'ambassadrice ukrainienne auprès de l'OTAN indique n'avoir reçu aucun signal en ce sens, mais elle ne cache pas sa crainte d'une pénurie d'équipements disponibles si la guerre au Moyen-Orient était appelée à durer. Vincent Souriau, Washington RFI.
Et l'Ukraine continue quand même à recevoir du matériel essentiel à sa défense en dépit de la guerre au Moyen-Orient. De son côté, assuré hier le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Cette guerre au Moyen-Orient et ses importantes conséquences économiques pour la région et le monde entier, il y a bien sûr la question du détroit d'Ormuz, canal stratégique pour le commerce mondial, que les gardiens de la révolution ont bloqué au début de la guerre avant de laisser passer quelques navires non hostiles. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont entamé une réunion près de Paris. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est arrivé en France ce matin et il devrait pousser justement ses homologues à aider à la réouverture du détroit d'Ormuz. Mais avant cela, depuis un mois, les armateurs ont dû s'adapter en empruntant d'autres voies. C'est notamment le cas du groupe français CMA-CGM. Christine Cabot est vice-présidente actif industriel et opération du groupe.
La solution qui a été mise en place très rapidement par CMA-CGM, c'était de mettre en place un corridor terrestre entre les ports qui sont situés au sud d'Ormuz pour pouvoir y débarquer les marchandises et organiser un pont terrestre par camion ou par train vers Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah. Et puis, on a lancé un troisième corridor terrestre. Celui-là, il passe par la mer Rouge. On amène les marchandises via le port de Jeddah à l'ouest de l'Arabie Saoudite avec un pont terrestre de camion qui amène la marchandise de Jeddah jusqu'à Dammam. C'est un port d'Arabie Saoudite qui est situé à l'intérieur du golfe arabo-persique. Et donc, on peut amener de la marchandise et après la distribuer à l'intérieur du golfe et desservir Bahreïn, Koweït, l'Irak, le Qatar. La capacité est moins grande, mais on a réussi à remettre en place des tuyaux pour que la marchandise puisse passer. C'est déjà très important pour la région.
Christine Cabot, vice-présidente active industrielle et opérations du groupe CMA-CGM, interrogée par Arthur Ponchelet. Des explosions dans le sud de Beyrouth. L'armée israélienne n'a lancé aucun avertissement ou appel à évacuer la zone, mais des explosions ont retenti dans le sud de la capitale libanaise. Tôt ce matin, Israël appelle par ailleurs à évacuer un village du sud du Liban. L'armée israélienne a demandé aux habitants de Sejout de quitter immédiatement la zone et de se diriger au nord du fleuve Zarani, invoquant des activités du Hezbollah. Une enquête à lire depuis ce matin sur RFI.fr sur les opérations et mésaventures des experts russes au Tchad. Sur la base d'une fuite de plus de 1400 pages de documents, un consortium international de journalistes auquel RFI est associé retrace les activités de la compagnie aussi appelée Africa Politology. Ce groupe de consultants en influence fondé au sein du groupe Wagner puis rattaché au service de l'État russe. Eh bien, ces documents permettent d'expliquer la stratégie mise en place au Tchad pendant le cycle électoral de 2024, marquant la sortie de la transition. Les experts russes se sont rapprochés des autorités tchadiennes dans le but, écrivent-ils, d'éloigner le pays de la sphère d'influence occidentale. Et à l'approche de la présidentielle du 6 mai 2024, ils montrent plusieurs actions de communication, en particulier pour cibler l'opposant Succès Masra. Mais cet activisme se finira en détention. Explication François Mazet.
Africa Politology théorise la nécessité d'un antagonisme entre le président Déby et son premier ministre, Succès Masra. Une campagne de communication cible l'opposant avec plus de 120 publications. Beaucoup contiennent des informations fausses ou tronquées visant à présenter Succès Masra comme un pantin des États-Unis complotant avec des groupes rebelles contre l'avis du chef de l'État. Des liens vers ces articles et les sommes versées sont consignés dans les documents consultés par le consortium. Maxime Chougalay, expérimenté communicant de l'époque Wagner, affirme avoir remis des documents à l'entourage du chef de l'État. Il diffuse une photographie, casquette à l'effigie de Mahamat Idriss Déby sur la tête, drapeau russe sur la table. Mais cet activisme ostentatoire est finalement mal perçu. Le 19 septembre 2024, il revient au Tchad. Il est arrêté à l'aéroport, expulsé quelques mois plus tard, en compagnie de trois autres membres de la compagnie. Leur travail était de promouvoir l'intégration du Tchad dans un cadre géopolitique pro-russe. Le pays est classé priorité stratégique de niveau 1 comme ceux de l'AES dont l'expansion est citée à plusieurs reprises dans les documents internes du groupe, une stratégie qui jusque-là n'a pas connu de succès.
Sur ce travail d'Africa Politology pour solidifier l'AES et l'étendre à d'autres pays, la suite de notre enquête sera à lire dès lundi matin sur RFI.fr. Trois ans après un rapport accablant sur l'ampleur de la pédocriminalité dans les rangs de l'Église portugaise, la conférence épiscopale fait un premier pas. Elle va verser plus €1,5 million d'euros à 57 victimes dans un premier temps. Elle avait reçu 95 demandes de réparation financière, 28 ont été rejetées, mais elle pourrait encore en approuver une dizaine d'autres. C'est ce qu'a précisé la conférence épiscopale portugaise dans un communiqué, et les montants versés sont loin de satisfaire les représentants des victimes. Marilyn Darcy.
C'est un affront. L'association qui représente les victimes d'abus sexuels dans l'Église s'est insurgée à l'annonce du montant des indemnisations proposées par les évêques. Entre 9 000 et 45 000 euros, selon les cas, aux 57 victimes identifiées jusqu'à présent. Le montant n'est même pas celui qu'avait évoqué le pape François, qui avait estimé à 50 000 euros minimum l'indemnité, a souligné l'association Coração Silenciado, cœur réduit au silence. Elle s'est mobilisée à plusieurs reprises depuis le début du processus entamé par l'Église en 2023 pour faire accélérer les choses, mais aussi pour réclamer une indemnité identique pour chacune des personnes victimes d'abus. Car comment peut-on évaluer un trauma? Comment peut-on évaluer ses conséquences? S'interroge le cœur réduit au silence. De leur côté, les évêques affirment avoir appliqué des critères stricts dans l'analyse des dossiers. La conférence épiscopale décidera en avril si elle poursuit les investigations. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.